Dans un instant, la bourse.
La bourse avec Lawson, éditeur d'ERP, né de la fusion avec Intensia.
Vincent Bezeau à la Bourse de Paris, tendance à la baisse, Vincent.
Oui, Claire, toujours inquiet de l'évolution de la politique monétaire américaine, le marché parisien continue à faire grise mine. Le CAC 40 qui a gagné 0,25% en matinée s'est très vite retourné. Il abandonne à présent 0,40% à 4 749 points dans des volumes de 1,5 milliard d'euros. Le rebond initié vendredi aura également fait long feu sur les autres places européennes. L'euro First 80 décale ainsi de 0,45%. Du côté des devises, le billet vert continue à s'apprécier face à l'euro. Les cambistes jouant pour le moment une poursuite des hausses de taux d'intérêt aux États-Unis. La monnaie unique retombe donc à 1,2586$. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 607,75$. Côté valeur, aux deux extrémités du CAC, on trouve Air Liquide plus 1,46% et Suez moins 1,97%. Le CAC 40, lui, cède 0,39% à 4 749 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire, bonjour à tous. Aujourd'hui, un des plus hauts responsables de l'Allemagne nazie, l'architecte de Hitler, Albert Speer.
Pour Hitler, j'étais un spécialiste, premièrement l'architecte, et après j'étais son ministre d'un moment. J'étais une espèce de technocrate. Quand on a appris quelque chose des camps de concentration, on disait « Oh, ce sont des rumeurs pour nous faire du mal ».
D'histoire. Personne ne peut sérieusement croire que celui qui fut le ministre allemand de la production de guerre entre 1942 et 1945, et à ce titre l'employeur de centaines de milliers de déportés morts dans les camps de travail, puisse avoir ignoré ce qui s'y passait. C'est pourtant ce qu'Albert Speer a affirmé jusqu'à la fin de sa vie. En niant ainsi sa responsabilité, il ne se distinguait pas des autres dirigeants nazis. Mais au tribunal de Nuremberg, il ne s'est pas contenté de plaider non coupable. Cet ancien ministre, architecte du Troisième Reich et ami de Hitler, fut aussi le seul à dénoncer l'homme auquel il devait son extraordinaire ascension et le régime dont il avait été pourtant un des instruments les plus dociles et les plus efficaces. Albert Speer au tribunal de Nuremberg en 1946.
Privation et misère se sont abattues sur le peuple allemand. Après ce procès, le peuple jugera Hitler comme l'auteur de son malheur, le méprisera et le maudira. Mais le monde en retiendra la leçon. La dictature n'est pas seulement un régime haïssable, mais aussi redoutable.
La dictature als Staatsform, nicht nur zu hassen, sondern zu fürchten.
Accusé Albert Speer, suivant les chefs de l'acte d'accusation dont vous avez été reconnu coupable, le tribunal vous condamne à 20 ans d'emprisonnement.
Lionel Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste reconnu de l'histoire du nazisme, à laquelle vous avez consacré de nombreux livres, dont le dernier, Nazisme et barbarie, vient d'être édité aux éditions Complex. Alors, une barbarie dont les responsables étaient traduits il y a 60 ans devant le tribunal de Nuremberg, qui condamnait Albert Speer, on vient de l'entendre, à 20 ans de prison, alors que les plus hauts responsables du régime étaient, pour la plupart, condamnés à mort. Et pourtant, Albert Speer n'était pas un personnage secondaire du régime. Il en était même une des figures les plus importantes.
Oui, d'abord, il a contribué à la mise en place du Troisième Reich, des structures de domination du Troisième Reich, dans la mesure où il a traversé là des rouages essentiels. D'un côté, le Front du Travail. Vous savez que le Front du Travail, c'était l'organisation qui, justement, succédait à la suppression des syndicats. Et donc, c'était vraiment une mise en ordre de tout le monde économique allemand. Et il a traversé aussi tout l'autre rouage, qui est celui de l'urbanisme, dans la mesure où il y avait une séduction qui devait être opérée à travers la toute-puissance du Troisième Reich qui devait être manifeste.
C'est lui qui a mis en scène notamment, voilà, avec ses fameux projecteurs tournés vers le ciel, les fameux congrès de Nuremberg qui ont une très grosse importance pour le développement, la mise en scène du régime nazi. Alors cela dit, c'est un important personnage. En plus, il faut le rappeler, il était très proche de Hitler, au point d'ailleurs de s'installer à la demande de Hitler à côté de lui, à Berchtesgaden, pendant la guerre. Donc il le voyait constamment. Alors cela dit, c'est un des responsables, mais c'est quand même un personnage assez atypique. Il est plus fasciné par Hitler que par sa doctrine. C'est plus un esthète, au fond, qu'un politicien, comme l'ont été beaucoup de dirigeants nazis, Lionel Richard.
Oui, il a dit lui-même qu'il aurait pu devenir un architecte reconnu et travailler pour un tout autre système que le système nazi. Donc, il s'est toujours défendu d'avoir été un idéologue, d'avoir adhéré au parti nazi parce qu'il croyait vraiment dans l'idéologie nationale-socialiste. Mais il a été fasciné par Hitler. Hitler, il a toujours dit. Et d'ailleurs, on vient d'écouter justement sa déposition au procès de Nuremberg, et il a construit une image du Troisième Reich qu'il n'a jamais nié par la suite, lorsqu'il a été libéré. Et c'est celle d'une dictature, mais d'une dictature très particulière, une dictature d'un homme seul. Mm-hmm. Et il a toujours dit que le Troisième Reich, c'était la dictature de Hitler, et qu'aucune autre dictature dans le monde ne pouvait, de ce fait, ressembler à ce qui a existé sous le Troisième Reich.
Hitler qu'il rencontre, qu'il entend plutôt en 1930, il est séduit par le personnage, il adhère à ce moment-là au parti nazi qui lui confie un certain nombre de tâches, de travaux architecturaux, notamment sa participation au congrès de Nuremberg.
À sa construction, déjà.
Et alors, c'était quand même, cette admiration, ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'elle était partagée. Hitler, qui n'admirait pas grand monde, disait-on, admirait Speer.
Oui, il admirait Speer pour une raison, si vous voulez. Et il y a l'échec de Hitler dans son entrée à l'école des Beaux-Arts de Vienne, et donc il trouve là un représentant de l'histoire de l'architecture en Allemagne, puisque il était Speer fils et petit-fils d'architecte, et qu'il a fait ses études dans les plus grandes sections d'architecture de l'Allemagne, en devenant assistant technique de l'un des plus grands architectes de l'époque, Heinrich Tessenow. Et donc, pour Hitler, c'est véritablement un sommet. Donc, on comprend que toute la tradition qui est derrière Speer était quelque chose d'attirant pour Hitler.
Alors, Hitler est tellement attiré, tellement impressionné qu'il nomme Speer, qui n'a que 32 ans, il va le nommer inspecteur général des bâtiments. Et à ce titre, d'ailleurs, Hitler va lui confier le rôle d'architecte du régime nazi chargé des grands travaux qu'il a prévu de faire en Allemagne.
Wir bauen nicht für das Jahr 1940, sondern für das Jahr 2000 und 2200.
Nous ne bâtissons pas pour 1940, mais l'an 2000 et 2200. En tant que chancelier et Führer, je veux que l'Allemagne soit la plus grande nation, et même plus grande encore. J'ai chargé mon architecte Speer d'achever la chancellerie pour le 10 janvier.
Richard, juste avant ce Carmina Burana de Karl Orff, qui a été joué d'ailleurs à l'époque du régime nazi, on a entendu Hitler annoncer la construction de la chancellerie. Il y a eu beaucoup de choses construites par Speer, mais alors surtout, il y a eu un projet absolument gigantesque qui était la destruction et la reconstruction de Berlin pour en faire une capitale monumentale qui devait changer de nom. D'ailleurs, elle s'appelait Germania, je crois.
Oui, elle devait être la capitale du monde. Évidemment, Hitler avait été très impressionné par Paris et il voulait absolument que Berlin devienne admirable dans le monde entier. Donc, il fallait refaire complètement Berlin, donc détruire des quartiers. Et il y a là un projet gigantesque qui a été confié à Speer. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par la suite, après la guerre, Speer a dit, en ce qui concerne l'éthique de l'architecte, quand l'architecte est appelé à construire des projets inhumains, et il doit refuser ses services. Mmh. Alors, est-ce que c'est une leçon qu'il a tirée après la guerre? En tout cas, lui, il ne l'a pas fait.
C'est phénoménal, hein, ce projet. Il devait y avoir une grande avenue coupant Berlin en deux de 120 mètres de large, plus large que les Champs-Élysées, un arc de triomphe trois fois plus haut que l'arc de triomphe de Paris, parce qu'effectivement...
Avec une énorme coupole.
Ouais. Et alors, une coupole phénoménale de 350 mètres de haut qui aurait pu contenir l'intégralité de Saint-Pierre de Rome, plus un stade de 400 000 spectateurs. C'était absolument insensé.
Ah, mais le stade, justement, devait servir pour toute la durée éternelle des Jeux Olympiques.
Ouais, c'était incroyable. Et alors, ça supposait des destructions de quartiers entiers et surtout, ce qu'on a évidemment reproché à Speer, l'expropriation d'un certain nombre d'habitants de Berlin et d'abord des Juifs. Hein. Il y a eu, je crois, plus de 80 000 Juifs qui ont été chassés de la ville de Berlin.
Oui, c'est-à-dire que le plan qui commence en 1939, qui va durer jusqu'en 1941, consiste à évacuer les Juifs des immeubles qui sont habités par toutes sortes de populations. Et donc, on va regrouper à partir de 1939 les Juifs dans des immeubles particuliers, les immeubles pour Juifs. Et puis, évidemment, quand il s'agit de propriétés qui sont celles des Juifs, on les exproprie et puis on détruit ces immeubles. Donc, Speer va être mêlé. Ce sont ces bureaux, hein, ces bureaux d'urbanisme de 1939 à 1941 qui vont être absolument mêlés à cette spoliation juive à l'époque. Il a fait disparaître tout cela de ses mémoires. Hein? Et des chercheurs se sont penchés évidemment sur tous ces papiers. Ils ne les ont pas trouvés avant sa mort, avant 1981. Puis depuis ces années-là, bon, on a retrouvé les archives et effectivement on a la signature de Speer sur cette expropriation, cette spoliation.
On y reviendra justement, Yann Richard. Mais alors, ce projet démesuré de nouvelle ville de Germania, comme on l'appelait, eh ben il va pas voir le jour pour faute de guerre. Une guerre pendant laquelle Hitler a confié à Speer d'autres responsabilités auquel il n'était pas préparé.
La Wehrmacht et l'organisation Todt sont liées et Albert Speer y est incorporé en tant qu'inspecteur général des bâtiments. Voici des édifices pour l'armement créés à l'initiative du ministre du Reich chargé de transformer Berlin, Munich, Nuremberg et Hambourg. Les collaborateurs du ministre Speer travaillent à ces nouvelles constructions de guerre sur le territoire du Reich.
Et voilà donc Albert Speer devenu en 1942 un des artisans de la machine de guerre allemande. Il travaille pour l'armée, hein. Il construit plus des stades ou des coupoles, mais cette fois-ci des bunkers. Et il va même devenir ministre peu de temps après, parce que le ministre, Fritz Todt, je crois, est mort dans un accident d'avion.
C'est-à-dire que c'est l'architecte Paul Ludwig Todt, effectivement, qui meurt. Et donc, à ce moment-là, il devient ministre de l'armement.
Alors, ça veut dire quoi? D'abord, premièrement, est-ce qu'il en avait les compétences, hein? C'est quand même quelqu'un qui s'occupe d'architecture. Voilà que Hitler, ce qui montre d'ailleurs la confiance qu'il avait en lui, lui confie une responsabilité qui était forcément essentielle pendant cette guerre, l'Allemagne en pleine guerre. Nous sommes en 42.
Oui, mais il va jouer justement un rôle formidable dans la mesure où il va développer la production, il va utiliser les travailleurs à sa disposition, qui sont les travailleurs étrangers dans les camps, etc. Donc, ministre de l'armement, de la production, le destin de la guerre est finalement entre ses mains.
Avec des travailleurs, ce sont ceux du STO hein, qui sont raflés par Sokel dans...
Oui, et toute la main-d'œuvre de l'Est également qui l'utilise.
Et puis alors, bien entendu, dans les camps, dans certains camps, un certain nombre de camps aussi, une main-d'œuvre de déportés, Lionel Richard.
Oui, une main-d'œuvre de déportés, mais qui ne concerne pas les déportés juifs. Mmh. Donc, il faut, je crois, distinguer les deux genres de camps. Ce sont des camps de déportation de travailleurs forcés.
Il y en a un qui est tristement célèbre, c'est celui de Dora, qui était un camp qui a été enterré pour fabriquer les nouvelles armes, notamment les fusées allemandes. En tout cas, Speer est fier d'avoir maintenu et même développé, vous le disiez, la production allemande, malgré les bombardements sur l'Allemagne et après Stalingrad, malgré la perte progressive des conquêtes du Troisième Reich.
Le ministre Speer donne aux ouvriers les résultats de la production et les remercie pour leur travail qui a permis l'augmentation de cette production. Au cours de ces quatre années de guerre, l'ennemi avait espéré une chute de notre production par manque de matières premières. Au contraire, je peux affirmer aujourd'hui que l'industrie d'armement allemand a progressé et en mai 1943 a atteint un niveau record.
Et c'était Albert Speer en 1943. C'est vrai qu'on lui a, on a salué, entre guillemets, son efficacité.
Oui.
Alors,
oui.
Une efficacité, on s'en doute à quel prix. Alors là, évidemment, il faut évoquer sa responsabilité dans les déportations, dans l'emploi de travailleurs forcés, dont beaucoup sont morts dans des conditions effroyables, notamment dans ce camp de Dora dont nous parlions. Il a toujours nié avoir su ce qui se passait, d'abord dans ses propres camps de travail. Je ne parle même pas encore du génocide des Juifs et des camps d'extermination, Lionel Richard.
Oui, moi ça c'est impossible. Il suffisait de lire le Völkischer Beobachter en 1942 ou 1943, le journal du parti nazi, pour être au courant. Donc Speer était au courant. Mais ce qu'il ne connaissait pas, évidemment, c'était peut-être toutes les finasseries de l'extermination proprement dite. Et l'existence dans leur organisation proprement dite des camps d'extermination. Mais la destruction des Juifs proprement dite, il la connaissait nécessairement. D'ailleurs, elle existait dans les journaux, on en parlait, on savait que le destin des Juifs c'était d'être détruit et je cite par exemple dans mon livre les propos de ce journaliste allemand qui parlait régulièrement à la radio, qui s'appelait Friedrich, qu'on appelait Friedrich, et il dit en 42 qu'effectivement il faut supprimer les Juifs parce que les Juifs d'abord sont à l'origine de la guerre. Donc Speer s'est lavé de toute culpabilité en ce sens, et je crois que c'est justement un personnage extrêmement caractéristique des Allemands moyens, hein, des Allemands moyens qui ont servi le Troisième Reich, hein, dans la mesure où il a joué aux technocrates et il a participé dans une certaine forme de complicité à tout ce que le Troisième Reich a donné, et en même temps, il a dit « je ne savais pas ». Et c'est l'attitude de la majorité des Allemands en 1945. Un livre vient d'être publié là par un historien très intéressant, parce que dans les années 70, cet historien qui s'appelle Peter Langerich avait publié l'essentiel des textes législatifs du Troisième Reich sur l'extermination. Et Peter Langerich vient de publier un livre qui a beaucoup de succès d'ailleurs en Allemagne et qui est intitulé « Nous ne savions rien ». Il répond justement à ce que disaient les Allemands en 45-46, « Nous ne savions rien ».
Mais
on peut
l'imaginer de la part d'un Allemand moyen, mais alors pas évidemment d'un ministre qui emploie, hein, en plus une main-d'œuvre déportée qui participe, je crois dont le ministère a participé à la construction des camps d'extermination, hein, qui n'était pas directement sous la responsabilité de Speer, mais enfin il était au courant. Il y a eu une réunion aussi avec Himmler, auquel il a nié avoir participé en 43, où Himmler a dit très clairement qu'il devait y avoir extermination des Juifs. Alors, en revanche, une chose étonnante, mais ça ne se produit en 45, voilà un homme aussi, Speer, qui est le seul à se dresser un peu contre Hitler. D'abord, il se rend compte, début 45, c'est un peu tard, mais il s'en rend compte que l'Allemagne a perdu la guerre, il ose le dire à Hitler, et même on dit qu'il aurait osé, qu'il aurait essayé de le tuer. En tout cas, il refuse la politique de terre brûlée, justement, que Hitler lui demande de pratiquer. Hitler, à la fin, se dit, bah écoutez, puisque nous avons perdu la guerre, puisqu'il en est conscient, que l'Allemagne s'écroule avec moi, et Speer refuse.
Oui, il devient à peu près conscient en 1944 déjà que la guerre est perdue. Et donc évidemment, il ne veut pas aller jusqu'au bout avec Hitler en entraînant l'Allemagne dans ce désastre. Et effectivement, il va refuser la politique de terre brûlée. Mais il ira quand même jusqu'au bout. Et sans affabulation de la suppression de Hitler, il aurait imaginé le passage d'un gaz, le gaz Tabun, qu'il se serait infiltré dans le bunker de la chancellerie. Bon, comme on n'a aucune preuve, on ne sait pas du tout si effectivement il avait prévu ou non la mort de Hitler. Ce qui est certain, c'est que au-delà de la mort de Hitler, il a encore servi le Troisième Reich. Et donc finalement, et il espérait peut-être jouer un rôle dans une Allemagne justement délivrée de Hitler. Ça, on l'a accusé dans toutes les années d'après-guerre d'avoir habilement joué pour avoir un autre rôle.
Hitler, en tout cas, auquel il désobéit, en tout cas, c'est ce qu'il affirmera plus tard devant le tribunal de Nuremberg.
Das deutsche Volk hat bis zum Schluss Adolf Hitler die Treue gehalten.
Le peuple allemand est resté fidèle à Hitler jusqu'au bout. C'est Hitler qui l'a trahi, en essayant de le précipiter dans l'abîme. J'ai donc sillonné les territoires concernés pour empêcher l'exécution de ses ordres. Une dernière question. Vos activités pendant les derniers mois de la guerre sont-elles conciliables avec votre serment de fidélité à Adolf Hitler ?
Gegenüber Adolf Hitler vereinbart. Es gibt eine Treue.
Il y a une fidélité à laquelle on ne doit pas manquer, la fidélité à son propre peuple. Ce devoir est au-dessus de tout. Que Hitler ait trahi son peuple, tout homme intelligent devait le voir, au plus tard en janvier-février 1945.
C'était Speer à Nuremberg. Étonnant son attitude à Nuremberg. Je crois qu'il est le seul dirigeant nazi qui comparaissait parmi les grands dirigeants nazis à avoir tenu ce discours quand même, accusant Hitler de trahison alors qu'il en était un des amis même les plus fidèles.
Oui, mais c'est l'image de Hitler qui s'effondre. C'est ce Hitler qui l'avait fasciné par sa puissance et bon, ses projets pour l'Allemagne. Et à ce moment-là, l'idole ne représente plus rien. Et à ce moment, bon, il la rejette. L'Allemagne peut continuer sans Hitler. C'est l'idée de Speer. D'où l'irrationnel également qu'il y avait dans son attitude est devenu de sa part critiquable. Et il est l'un des seuls, effectivement, à mettre en cause complètement le projet de Hitler à travers le Troisième Reich.
Mais est-ce qu'il fait ça parce qu'il est déçu par Hitler, Alain Richard, ou pour sauver sa peau, sa tête? Parce que, évidemment, en tant que haut responsable du régime nazi, il risquait, comme les autres l'ont été, d'être condamné à mort.
Moi, je crois qu'il y a les deux aspects. D'abord, effectivement, il veut sauver sa peau. Hein, mais il y a aussi ses yeux qui s'ouvrent. Il a été aveugle jusque-là, et l'effondrement du Troisième Reich, c'est au fond une grande partie de sa vie qu'il a sous les yeux et qui lui a été dictée par un diable, dit-il, qui était Hitler.
Alors, cela dit, il n'écopera, si je puis dire, que de 20 ans de prison, ce qui est clément par rapport, encore une fois, aux autres condamnations à mort, hein, qui ont été pendus. Je pense à Göring. Je pense même à des gens à la limite moins responsables que lui. Il s'est défaussé tout le temps sur Sokol, qui organisait la déportation des travailleurs, en disant c'est pas moi, c'est lui. Mais lui-même n'obtient que 20 ans de prison. Il en sortira en 1966 de la prison de Spandau pour se consacrer à l'écriture de ses mémoires, publiées en 1969. Et pour les lesquels Speer répondait aux questions de Jean-Pierre Elkabbach le 14 novembre 1975.
Pour vous, les 20 années que vous avez passées à Spandau dans la prison interalliée, est-ce qu'ils effacent les années du Troisième Reich ?
Non, pas du tout. On ne peut jamais dire que cela s'efface avec 20 ans parce que les crimes aussi, dans mon cas, personnel était si grande que chaque punition aurait été juste. Mais pas seulement ça, c'est toujours nécessaire que je pense à ceux qui souffraient et que je n'oublie pas la souffrance des millions qui étaient perdus par le gouvernement hitlérien.
On a du mal à penser que le Albert Speer de l'époque ne se rendait pas compte de ce qui se passait dans son propre pays et sous ses yeux, et parfois sous sa responsabilité.
On oublie souvent que dans le temps de Hitler, j'étais un homme différent que d'aujourd'hui. Que avec ses 20 ans, à Spandau, j'ai appris les idéaux d'humanité que je ne connaissais pas pendant le temps hitlérien. Naturellement, c'était une négligence qu'on ne peut pas excuser.
C'était Albert Speer en 1975, 9 ans après sa libération, 6 ans avant sa mort à Londres en 1980. Un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, Lionel Richard. Il a l'air sincère.
Il a l'air sincère, oui. Et bon, il est certain que les années de prison, tout de même, lui ont servi. Cela dit, il ne réfléchit pas, évidemment, sur les conditions d'accession de Hitler au pouvoir et à la manière dont, politiquement, ce régime a fonctionné. Il met en cause simplement sa personne. Est-ce que ça suffit, évidemment, pour proposer une compréhension du Troisième Reich, hein?
Aux yeux de beaucoup de gens, c'était le gentil parmi les méchants, le bon nazi, entre guillemets. Bref.
Jusque dans ce film, justement, qui a été fait sur les derniers jours de Hitler et qui s'appelle La Chute, hein, qui a eu tellement de succès. Et, bon, et Hitler apparaît, évidemment, comme complètement apathique, malade, et en face, il y a Speer qui est l'un des seuls humains à lui tenir tête.
Ce qui est étonnant quand même, c'est que après sa mort, ce n'est qu'après sa mort, et je pense à un historien allemand qui est Fest, qui a écrit une biographie de Speer, qui était d'ailleurs le conseiller littéraire, c'est lui, je crois, qui a publié même les mémoires de Speer, et qui disait, au fond, il était quand même beaucoup plus responsable qu'il ne le disait.
Oui, Fest a été beaucoup critiqué. Il a...
Là je parle de Speer. Hein. Fest.
Non, mais c'est très important. Fest, oui. C'est très important parce que l'image que l'on a de Speer est due essentiellement à ce journaliste Fest qui a écrit des livres d'histoire. C'est-à-dire Fest, au fond, est l'un des artisans des mémoires de Speer. Il y avait des milliers de pages, et il a fallu en supprimer, et il a fallu surtout donner une orientation à la vision qui était celle du Troisième Reich, et tout cela est dû à Fest, et non pas à Speer. Speer était un esprit brouillon d'une certaine manière, et Fest a donné une orientation à tout cela. Et par la suite, Speer, évidemment, a donné des interviews, etc., qui corroboraient ses mémoires. Mais Fest lui-même, après la disparition de Speer, a eu une forme de repentir, si vous voulez, en disant « Mon Speer n'était pas aussi parfait que celui que j'ai décrit. »
Au-delà de tout ça, Lionel Richard, au-delà de la culpabilité ou de la responsabilité de Speer, il y a un problème quand même, c'est celui de tous ces Allemands qui n'étaient pas nécessairement des adhérents à l'idéologie nazie et qui ont contribué, comme l'a fait Speer, parce que c'était des techniciens qui ont contribué à son ascension. C'est énorme, ça. Tous les Allemands, même Speer, n'était pas nécessairement nazi et pourtant il a été un des artisans principaux du nazisme.
Oui, mais parce que la situation de l'Allemagne permettait justement cette adhésion. Le problème, c'est qu'il y avait d'abord le chômage et une partie justement de ces intellectuels qui n'avaient pas de débouchés. Et d'autre part, il y avait l'idée que l'Allemagne était dans une situation désastreuse dans tous les domaines, également dans le domaine culturel. Et il fallait absolument retrouver la grande Allemagne. Ils ont été exaltés justement par nationalisme. En vue de la reconstruction morale de l'Allemagne. Et c'est le national-socialisme et c'est Hitler qui leur proposait à travers, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, à travers une alliance. Hein. Alors, en 1933, c'est un gouvernement d'unité nationale.
Merci Lionel Richard. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Nazisme et Barbarie qui vient de sortir aux éditions Complexe, qui ont réédité également votre livre, Le Nazisme et la Culture, dans lequel vous évoquez Speer. Et puis également, vous êtes l'auteur de Suite et séquelles de la manne nazie, publié aux éditions Syllab. À lire également la biographie de Speer, écrite par Joachim Fest, justement, et réédité chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits de Speer et Hitler, L'architecte du diable, un excellent docu-fiction de Heinrich Breuler, diffusé il y a quelques semaines sur Canal+, et qui a donné lieu un livre publié par Albin Michel et Canal Plus Édition. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Edwin Caron, Ludovic Asselot, Claire Tesser, Claire Destacan et Sandra Escamez. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire et à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre d'Espagne, le destin étonnant des républicains espagnols. Mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, la passionnariat du rock. C'est Eric Oswald, bonjour.
Hola, qué tal? Bonjour Patrice. À demain.
À demain.
Pour l'instant,
c'est moi, c'est la moitié. Oh, ça merde, tu vas voir.
Oui, ça va, je suis zen, ça va, c'est passé.
Amis de la musique. Music.
Music Express.
Des sensations musicales inimaginables jusqu'à présent.
Eric Oswald.
Merci à vous, ça a l'air parfait maintenant.
Bonjour et bienvenue à bord de Music Express pour la première de la semaine. Oh, il n'y a plus que 15 jours avant la grille d'été. Comme chaque lundi, nous terminons avec un titre où la guitare a toute sa place, mais contrairement à nos habitudes, pas de distorsion, pas d'ampli à 11 et pas de cheveux qui se secouent. Nous écouterons pour le fait une superbe chanson de... Oui, mais je suis perturbé là par tout ça. Feu d'artifice, merci. Nous écouterons Björn Berge tout à l'heure avec Black Jesus ou la...